Cut. Beef, because of the beef, buff, poof. Beef, buff, poof. Beef, buff, poof. Because of the beef. Et normalement, tout le monde est because of the beef.
Paf, pouf.
Paf, pouf.
Ouais.
Bon. Ok, nous sommes à Ludinor, Matt.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est la radio des jeux Ludinor épisode 2. Donc, on prend l'antenne. Alors, j'ai une question. J'ai une question. Quel est le point commun entre Bruno Fellucci, Philippe Kayertz, Eric Anus et Tibi? Eh bien, ils sont assis en face de nous. Ils sont tous assis en face de nous. C'est une autre façon de dire qu'ils ont fait le déplacement, eux aussi, à Ludinor. Et donc, nous sommes entre hommes.
Moi, je préférais la partie où tu disais qu'ils avaient fait le déplacement parce que je comprenais.
Alors,
c'est entre hommes que tu comprends pas ou...
Tout à fait. Okay. Ça l'a troublé, je pense.
Non, c'est la partie point commun. Je cherchais. Ok, je trouvais pas.
Eh bien, bonjour, messieurs.
Bonjour.
C'est le côté pratique, tu sais, Mathieu, des festivals. C'est-à-dire qu'on peut avoir les gens qu'on a du mal à géographiquement choper, attraper.
Ouais.
On n'arrive pas au niveau des calendriers à les coordonner.
C'est vrai que ça fait un certain temps qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas.
Tout à fait, Bruno.
Donc ça, c'est chouette. Mais je t'ai paniqué ton intro, non?
Non, je crois que rien du tout, parce que je n'ai pas d'intro, hein, donc
d'accord.
T'as pas mis les pieds dans le plat. Alors, j'ai une question donc, quand même qui est, est-ce que vous passez un bon moment ici à Ludinor?
Jusqu'à présent, ça allait. Donc, ouais, on va voir.
Et puis là, tout est en train de partir à volo,
Je vais essayer de gérer pour que ça se passe bien, qu'on en garde quand même un bon souvenir, quoi. C'est...
D'accord.
Mais ça va, franchement, ça va. Oui.
C'est bien, hein.
Bruno?
C'est très bien, hein.
C'est votre première, à tous?
Moi, c'est la première, oui. C'est la première fois que je viens à Ludinor.
Aussi. Toi aussi, Bruno?
Moi, j'étais là l'an passé, et comme c'était très bien, je suis revenu.
Voilà, il a ramené des amis.
Oui, même chose, j'avais été invité l'année passée, ça s'est très très bien passé. Donc,
mais ouais. Alors, il n'y a personne qui était là depuis le début, quoi, qui peut dire « j'étais au début de Ludinor ».
On n'est même pas sûr que le début a réellement existé.
Oui, il y a Tim eu un début.
C'est ton premier Ludinor aussi?
C'est le second, non?
Ah, toi, c'est le second, toi, tu étais déjà là. Et alors, c'était mieux avant ou...
Mais c'est encore plus grand que l'année passée. Non, c'est très bien.
Donc toi, tu peux témoigner que Ludinor existe au moins depuis deux éditions.
Tu jures sur l'honneur.
Au moins depuis l'année passée, absolument. Ouais. Ouais.
Tu signes
avec. Je te rappelle mon compte en banque, c'était le...
Ah, je m'en fous, c'est pour les organisateurs.
Parce que les organisateurs nous ont dit que ça existait depuis 5 ans quand même.
Oui.
Donc, ils vont écouter, donc il faut aussi qu'ils aient son numéro de compte en banque.
Donc pour résumer, il y a donc Philippe qui est auteur, disons-le, Eric qui est éditeur, Tibi qui est podcasteur.
On ne sert pas à grand-chose,
oui. Podcasteur quand même.
Oui, allez, oui.
Tu peux faire un peu de pub si tu veux.
Bonjour.
Bonjour, voilà. Et Bruno qui est également auteur,
bonjour.
Pour rappeler.
Voilà. Un auteur, un éditeur ne vient jamais en simple festivalier, il a toujours peut-être quelque chose dans sa besace quand il vient, j'imagine c'est le cas pour la plupart d'entre vous.
Philippe? On vient quand même souvent d'abord pour rencontrer les gens, c'est vraiment ce qui est bien dans ce genre de salon, c'est ce qu'on on verra les joueurs, ceux qu'on ne voit pas d'habitude. Bon, effectivement, oui, bien sûr, on vient avec des protos, quand on a un nouveau jeu, on vient le présenter. Ce qui est, c'est de rencontrer les gens. Tantôt, j'ai essayé de faire le tour du salon, il m'a fallu 2 heures, parce que voilà, toutes les 5 minutes, on s'arrête, on commence à papoter.
C'est vraiment ça
qui est agréable. Je vois.
Tellement people.
Ouais.
Non moi, c'est les joueurs.
C'est même over VIP, quand même.
Oui, quand même.
Alors, sur un festival, ça se passe comment, le contact avec les joueurs en tant qu'auteur? C'est différent d'un salon?
J'avoue que je ne sais pas quelle est la différence entre un festival et un salon, il faudra qu'on m'explique.
Il faudra écouter l'émission d'avant dans laquelle on l'a défini. Alors on a dit, un salon, il y a des stands avec les éditeurs et on vient vendre des boîtes.
Ouais.
Un festival, il y a des stands et des éditeurs mais on vient pas vendre des boîtes et les stands ne sont pas organisés forcément par éditeurs. On est arrivé à
pourtant à Cannes officiellement c'était un festival et ils vendaient plein de trucs. Hein.
Non mais il faut arrêter, non, tu peux pas Bruno.
Bon, donc, effectivement, je vois la différence. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec un éditeur et qui disait que c'était très bien qu'ici, ça soit des tables par jeu, etc., et pas par éditeur, parce que comme ça, eux, ils n'avaient rien à faire. Voilà, que les gens de Ludinor s'occupaient de tout, de présenter les jeux et tout, et qu'ils pouvaient se balader tranquilles. Donc, donc certains éditeurs apprécient ça.
Donc, pour ceux qui ont écouté la première partie de l'émission, hein, c'est-à-dire qu'un salon marche sans la charte des bénévoles.
c'est ça.
Alors, justement, une question. Moi, j'ai vu que sur toutes les tables, il y a des démonstrateurs qui expliquent les jeux, etc. Voir expliquer vos jeux par d'autres personnes, c'est bizarre ou...
Alors, moi, c'est pas mon cas. Parce
que,
en fait, ça a été un peu improvisé, et puis je leur avais pas vraiment dit que je venais, que j'amenais des protos, machin et tout, donc ils savaient pas. Donc mes protos, c'est moi qui les explique.
Oui, hein, parce
donc,
que t'étais venu sur une, j'ai vu sur une table.
Voilà, ils m'ont rajouté une table parce que j'étais pas prévu non plus.
Voilà.
Donc voilà. Donc il y a personne qui explique mes protos, je les explique tout seul comme un grand. Sauf Speed Dating, mais c'est pas un proto parce qu'il
non,
est sorti.
Non, justement, niveau jeu édité également, ça
voilà.
Va savoir.
Mais Speed Dating, il y a l'éditrice qui a. Je sais pas si c'est elle qui explique ou si c'est les gens de Ludinor, mais voilà. Ça me permet pendant ce temps-là de faire tourner les protos, c'est très bien.
Philippe, j'ai vu au moins Olympos qui tourne.
Oui, il y a aussi Twin Bots qui est le prototype.
Voilà, dont on va reparler juste après, je pense.
Donc là, j'ai expliqué une partie ou deux, mais c'est vrai que c'est aussi bien d'avoir des gens qui expliquent. Enfin, on peut faire les deux. J'ai fait quelques parties avec des joueurs et en même temps, j'ai pu me balader.
Et t'as pas envie d'étrangler les gens qui expliquent mal les règles?
Non, d'ailleurs, dès que j'approche, et voilà l'auteur, on va pouvoir lui poser des questions. Donc,
oui, bah alors justement, c'est la question. Bon. Est-ce que l'auteur est toujours le mieux placé pour expliquer ses propres jeux, finalement?
Ah, oui.
C'est deux compétences différentes d'expliquer et de créer.
Moi je pense... Bruno. En ce qui me concerne, je pense que je suis le mieux placé pour expliquer mes jeux, mais...
Parce qu'ils sont incompréhensibles ou...
Non, j'allais dire parce qu'ils sont relativement simples. Non, je pense que je suis... Bon, je vais être un peu prétentieux, je pense que je suis assez pédagogue, que j'explique pas trop mal, donc bon, ça marche. Hein. Après, c'est évident que je connais certains auteurs dont il vaut mieux que leur jeu soit expliqué par d'autres.
Mais
je ne les nommerai pas.
C'est vrai que Philippe et Bruno sont enseignants tous les deux, donc forcément il y a ce côté pédagogue qui est vraiment présent. Oui. C'est pas forcément le cas chez tous les auteurs, et c'est vrai que expliquer les règles d'un jeu à des gens n'est pas quelque chose qui vient naturellement à tout le monde.
Ok, et on le ressent. Attends.
Tout à fait, là, on nous apporte des trophées.
C'est très machin.
Oui, merci.
Il y a des gens
merci.
Qui sont en train d'essayer de faire passer des images à la radio.
Je voudrais remercier mes parents,
ça pas.
D'abord.
La radio, félicitations. Alors, je ne sais pas à qui il est. Bah, battez-vous, s'il vous plaît.
On va le donner à tout le monde. Je pense que tout le monde l'a bien mérité.
Donc là, on a les trophées de Ludinor qu'on est en train de nous montrer, qui sont des meeples géants.
Ouais. Ils sont de toute beauté.
Ils sont beaux.
Tibi, t'es en train de poser une question.
Non, je vous disais, il y a une marque de fabrique, effectivement, dans les jeux de Bruno ou de Philippe, et c'est pas parce qu'ils sont autour de la table, mais c'est vraiment une marque qu'on connaît. C'est vraiment un fameux coup de bol. C'est que, par exemple, dans les jeux de Philippe, une fois qu'on a joué à un Small World, à un Vinci ou à un Evo, on peut y revenir, et Philippe l'avait déjà expliqué dans différentes interviews, c'est qu'une règle de jeu, ça devrait se lire une fois, et puis quand on rejoue à ces jeux, ben, finalement, on va revenir dans les règles, simplement, quand il y a un petit point... bien précis, mais d'une manière générale, on va ouvrir la boîte et on va rejouer très facilement.
Alors c'est peut-être une question qui fait appel à votre background de joueur, mais est-ce qu'il n'y a pas un jeu, que ce soit un des vôtres ou celui d'un autre, mais vous n'avez jamais réussi à expliquer correctement ou sans vous reprendre, sans vous prendre les pieds dans le tapis
Moi, j'ai envie de faire une remarque, et plusieurs fois, donc ça doit être vrai, des éditeurs m'ont dit qu'ils appréciaient, qui regardaient les jeux que je leur proposais, en partie parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de réécrire les règles et qu'ils lisaient les règles et qu'ils les comprenaient. Et qu'il y a beaucoup d'auteurs, y compris des auteurs connus qui ont publié plein de jeux, etc., qui ne sont pas du tout des débutants, qui n'arrivent pas à écrire une règle clairement et à présenter clairement un jeu.
Mais c'est dur d'écrire une règle, mais moi, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, Sylvie, c'est le fait que dans vos jeux à tous les deux, il y a quand même ce point commun. Il y a rarement, par exemple, le point de règle qui, au dernier tour, change tout, qui fait que tout à la fin, on est complètement en colère d'avoir raté un truc et de se retrouver en dehors du jeu.
Oui, on est au courant
du comptage, mécanismes, voilà, des mécanismes clairs depuis le. C'est un peu une marque de fabrique, je pense. Ouais.
J'ai un jeu au moins qui fait exception à ça.
Ah.
Et ça m'énerve parfois, qui est Novembre Rouge, dans lequel il y a effectivement beaucoup de petits points de détail, etc. Oui. Parce qu'il a été construit comme ça, il a été construit un peu de manière extrêmement thématique. Et il y a eu je ne sais combien d'engueulades et de discussions avec l'éditeur sur la rédaction des règles. Et finalement, ils ont repris un peu toute la rédaction des règles. Je pense que sur certains points, elle est meilleure. Sur certains points, elle est moins bonne que la mienne. Mais c'est un jeu dont il était très difficile, effectivement, d'écrire des règles.
Eric, en tant qu'éditeur.
C'est vrai que pour un éditeur, c'est pas du tout facile. Moi, c'était un des premiers trucs auxquels j'ai été confronté, puisque le premier jeu que j'avais sorti, c'est Dragon Rage, qui est un vieux wargame des années 80. Il y a un bouquin de 16 pages de règles et il y a un bouquin de 32 pages de règles, donc c'est déjà costaud. Et en fait, justement, il y a eu un gros travail là-dessus. J'en avais discuté avec l'auteur qui m'avait dit « Mais non, les règles, elles sont très bien, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. » Et c'était encore des règles telles qu'on les faisait dans les années 80. Donc on avait des règles de base et des règles avancées qui étaient écrites dans le même texte. Les règles avancées étaient en italique. Et à la première lecture, il suffisait d'ignorer les paragraphes en italique. Et donc là j'ai dit « Ben non, justement, on va réécrire complètement la règle. On va faire un livre d'initiation, un livre de référence après. » Mais c'est ça qui a demandé le plus de travail. Il a fallu tout réécrire à partir de rien et puis après tout retester plusieurs fois pour être sûr qu'en réécrivant on n'avait rien perdu, parce que c'est le gros problème quand on retravaille un texte, c'est qu'à chaque modification il y a des risques d'interprétation et les joueurs abordent ça différemment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être très, très lax par rapport aux règles en disant « Oui, bon, on a compris l'esprit général et c'est bon ». Mais dès qu'on a des joueurs qui sont un peu plus compétitifs, et dans le passé j'ai joué à Magic, j'ai joué à Warhammer et ce genre de trucs, et là on a des gens qui pinaillent sur la moindre virgule, et donc il faut vraiment avoir un truc qui est blindé, sur lequel il n'y a pas la moindre interprétation possible, mais qui reste lisible par un humain. C'est vraiment un exercice de style de rédiger une règle.
Alors prendre des vieux jeux comme ça qui ont souvent des règles qui ont été rédigées à une époque où les contraintes n'étaient pas les mêmes, le public non plus d'ailleurs, c'est bien pour se faire la main.
Le public savait lire à l'époque.
Ah voilà. Le débat est lancé.
Alors, tu parles d'un truc.
Là, je ne suis pas d'accord.
Ah, Bruno ?
Ah ben, moi, je pense que les gens lisent mieux aujourd'hui qu'ils ne lisaient il y a 20 ans.
Mais je pense que les gens restent de toute façon dégoûtés de lire un mode d'emploi. Donc, c'est ça le souci.
C'est marrant parce que moi, j'entends souvent, à chaque fois, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire les règles, qui n'aiment pas expliquer. Mais moi, je trouve que dans le jeu, c'est comme ça que j'ai démarré. C'est ça qui me faisait kiffer, moi.
Oui, mais c'est pour ça que tu fais la radio des jeux et que tu aimes bien se faire.
Non, je fais la radio des jeux parce que je connais Guillaume Montien.
C'est aussi parce qu'il gagne sa vie comme ça.
Non, ce que je veux dire, mais moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est par passion du jeu que finalement on fait des actions entre guillemets sans prétention, où on a envie de partager le jeu avec les autres. Là, ce qu'on fait là pour l'instant, c'est la démonstration du fait qu'il y a des gens qui sont passionnés suffisamment jusqu'à vraiment partager. Le festival qui est ici est suffisant pour démontrer qu'il y a des gens qui sont capables de se rassembler pour faire des partages.
Mais ouais, mais j'aime pas quand on dit qu'une règle de jeu est un mode d'emploi. Enfin, je sais pas.
Malheureusement, c'est comme ça que c'est perçu.
Moi non plus, je n'aime pas. Parce que moi, je fais toujours. Enfin, ça dépend un peu des jeux. Mais je fais quand même un effort un petit peu littéraire de rédaction des règles. Donc je pense que c'est pas seulement un mode d'emploi. C'est pas rédigé de la même manière que le mode d'emploi d'un lecteur de DVD ou de je ne sais quoi.
C'est sans doute pas traduit de la même manière à l'étranger.
Alors ça c'est un autre point. Moi, je sais que
Bruno.
Je pense qu'une des raisons pour lesquelles mes règles sont en général relativement bonnes d'entrée, c'est que je n'arrête pas de faire des allers-retours entre le français et l'anglais. C'est-à-dire que je fais une règle en français, et très souvent, l'étape suivante, même si c'est le tout début du jeu, c'est que je la traduis en anglais. Et quand je la traduis en anglais, je m'aperçois qu'il manque des trucs.
Toi tu conçois directement en mode international ?
En général, j'ai la toute première ébauche qui est en français, et toutes les versions suivantes sont en anglais.
Tu traduis toi-même tes règles ?
Oui. Et même les éditeurs français, je leur envoie des règles en anglais la plupart du temps.
Philippe, ton expérience sur l'écriture de règles, tu as eu des difficultés sur certains projets ?
Écrire une règle, c'est compliqué, oui. Je dois dire, de toutes les étapes de l'élaboration d'un jeu, c'est vraiment celle qui ressemble le plus à un travail, je veux dire. Tout le reste du temps, j'ai l'impression plutôt que je suis occupé à faire un hobby, que je m'amuse, que je crée. C'est vrai que quand on sait que deux jours après, la règle doit partir chez l'imprimeur, c'est là qu'on commence à se casser la tête. Parce qu'on connaît le jeu, on connaît le jeu par cœur aussi, donc l'expliquer quand on le connaît vraiment très bien, on risque d'oublier les trucs qui sont tellement évidents qu'en fait c'est ce qu'on devrait expliquer le plus.
Et la place de plus en plus importante accordée à l'illustration me fait me poser cette question en tout cas. Alors vous allez peut-être pouvoir me répondre. Est-ce qu'il y a une règle de jeu qui n'est expliquée qu'en illustration, out le texte ?
Pix s'en rapproche,
ouais.
Pix commence. Il y a des efforts de bande dessinée aussi de plus en plus pour Tokaido.
Oui.
Mais Tokaido, c'est pas... Bon, il y a une petite histoire et puis les règles commencent, mais il y a vraiment cette volonté-là de trouver... On sent que ça, c'est vraiment... C'est des sables mouvants du jeu de société. Pour moi, c'est le truc qui dit comment est-ce qu'on va arriver enfin à pousser des gens qui ne sont pas joueurs à quand même passer par le livret, quoi.
Et chaque jeu va avoir des contraintes propres. Je veux dire, il y a des trucs qui sont plus faciles à expliquer dans un texte et des trucs qui sont plus faciles à expliquer en images. Et donc vraiment, il faut aussi savoir trouver la bonne manière d'expliquer ce jeu-là, quoi. et pas partir avec un a priori en disant voilà, ça doit être absolument du texte, ou pire que tout, ça ne doit être que des images pour qu'on ait des traductions en moins à faire. Ça, c'est une hérésie à mon sens, parce que c'est vraiment, on se retrouve avec un tas d'icônes incompréhensibles, on ne sait plus ce qu'on est en train de faire. Et donc, trouver vraiment le bon mix entre le texte, l'image, ou peut-être d'autres médias dans le futur, mais qui permettent de bien expliquer, c'est pas évident.
Alors, moi, je voudrais intervenir parce que moi, je suis très défenseur du texte. Peut-être en partie parce que
c'est
je sais.
C'est ton côté prof en fait.
Peut-être. Honnêtement, je pense que la raison principale, c'est que je ne sais absolument pas dessiner. Je suis incapable de faire un croquis, mais même le croquis le plus simple qui soit. Hein, donc, dans mes explications de règles, mes règles, c'est du texte, et c'est tout. En général, il n'y a pas un schéma, il n'y a pas un croquis, il y a quelquefois deux, trois petits symboles à droite et à gauche, mais ça ne va pas plus loin. Et quand je lis des règles, c'est également ça que je préfère. J'avoue que les règles sous forme de BD ou les règles sous forme de vidéo, ça m'insupporte. D'abord, les règles en vidéo, c'est une perte de temps. On est obligé de passer un quart d'heure pour comprendre les règles d'un jeu alors qu'on aurait mis 5 minutes à les lire. C'est une perte de temps extraordinaire. Les règles dessinées, moi je me rappelle, ce qui m'a fait moi, c'est un bon jeu, hein, Jamaica. Mais enfin, quand il vous faut une table de jeu pour jouer au jeu et une table de jeu pour déplier les règles.
Alors, en même temps, le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai l'impression que les règles de Jamaica, tout le monde les connaît, même sans y avoir joué.
Les règles de Jamaica ont été primées. Voilà. Elles ont eu le prix de la meilleure règle de jeu.
Ah, honnêtement, pour moi, c'est parmi les pires que je connais, oui, okay. Savoir que c'est un jeu que j'aime beaucoup.
Mais l'idée, c'est de rentrer dans le jeu le plus facilement possible. Alors, les moyens qu'on emploie pour ça, c'est pas. Je dirais que c'est pas très important. Il faudra un texte, parce que c'est ça qui fera référence. Un petit schéma, on peut l'interpréter. Mais donc, moi, je suis par contre une explication en vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent se faire expliquer la règle. Donc, si on n'a pas quelqu'un à côté, avoir une explication en vidéo, mais c'est pas la même chose qu'avoir la règle en vidéo.
Sinon, il n'y aurait pas 150 animateurs ici.
Il faut le texte, mais alors se le faire expliquer, c'est vraiment bien.
La règle d'un jeu, en fait, remplit plusieurs fonctions. Donc, la première fonction qu'elle a, c'est une fonction d'enseigner le jeu à d'autres personnes. Et à ce niveau-là, parfois, une vidéo ou d'autres peuvent être des compléments très intéressants. Après ça, elle a un deuxième rôle qui est un rôle de référence. Une fois qu'on a joué une fois ou deux, on va retourner à la règle. Dans tous les jeux de cubes en bois, on va aller voir est-ce qu'on en donne 3, 4 ou 5, machin, tous les petits détails qu'on a tendance à oublier. Pour ça, c'est important de retrouver ça dans la règle. Maintenant, il y a d'autres choses qui participent au rôle d'enseignement du jeu. Il y a Rob Davio qui a dit, et il a tout à fait raison là-dessus, quand on voit le matériel d'un
Rob
jeu...
Rob Davio qui est
Rob Davio qui est le créateur de Risk Legacy, qui est un ancien de chez Hasbro, qui est parti pour fonder sa boîte.
Heroescape aussi.
Enfin, c'est une légende du jeu américain.
Et pourtant, il existe vraiment.
Ouais. Et en fait, il a dit, quand on voit le matériel d'un jeu, on doit déjà avoir compris l'essentiel, et la règle ne doit faire que confirmer ce qu'on avait compris en voyant le matériel. C'est un très bel idéal vers lequel tendre, mais ça dit bien que la règle n'est pas que dans le livret de règles, elle est aussi dans le matériel, elle est dans ce qu'on voit à table qui facilite l'apprentissage du jeu.
Alors justement, moi j'ai une question. Parfois il y a des jeux qui ont deux versions des règles, une version débutant et une version avancée. Moi personnellement, c'est un truc qui m'horripile, la version débutant des règles. Est-ce que je suis le seul ?
Mais ça dépend,
du
contexte dans lequel on se met. Si on se met dans le contexte d'un festival comme aujourd'hui, où on est tous des gamers convaincus, il y a quand même pas mal de familles, mais je veux dire...
Il y a des intrus parmi nous.
Hein. Oui, c'est pas là.
Mais, on en est là.
Non, mais je veux dire, voilà, il y a deux optiques. Soit on est entre gamers et effectivement on sait qu'on va lire une règle et qu'on est préparé à ça psychologiquement. Alors effectivement, il y a le côté, oui, pourquoi est-ce qu'on ferait une règle pour débutants, etc.
Et puis une partie de débutants.
Ça c'est une chose. Maintenant, quand vous voyez, il y a quand même Cannes qui a pris l'As d'Or, c'est quand même Andorre, c'est un jeu qui s'explique tout seul. Et je pense que c'est pas la qualité du jeu, donc je ne critique absolument pas Andorre, mais je veux dire, ce n'est pas la qualité du jeu qu'on a primé, c'est la qualité de la pédagogie qu'il y a autour de ce jeu-là pour en faire un jeu familial. Et familial, ça veut dire n'importe qui arrive, qui débarque ici, doit pouvoir appréhender un jeu comme Andorre ou n'importe quel jeu, et c'est ça le sable mouvant dont je parle, c'est que...
Les
sables mouvants, c'est de dire je vais devoir écrire une règle, comment est-ce que je vais arriver à écrire une règle pour que le public qui n'est pas spécialement mon public cible finalement arrive à mon jeu, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ça reste du business, ça reste, on veut vendre des boîtes, et si on veut vendre des boîtes, on ne va pas les vendre tout le temps aux mêmes personnes, donc il va falloir toucher d'autres gens, et donc il faut écrire des règles correctes. Je ne suis pas contre par rapport à, en fait, des règles débutants, il faut bien appréhender la chose.
Moi tu dis que ça m'a beaucoup amusé quand tu as dit que quand il y avait règles de débutants et règles avancées, Les règles de débutant t'énervaient.
Ah, c'est mon côté méchant.
Moi, en général, c'est les règles avancées qui m'énervent. Et j'ai pas de jeux qui me viennent à l'esprit là, mais je sais que j'ai un certain nombre de jeux chez moi qui ont des règles débutants et des règles avancées. Et je ne suis jamais arrivé au-delà des règles débutants parce qu'elles me conviennent très bien.
En fait, quand je dis règles débutants, je parle plus de règles simplifiées pour la première partie et règles complètes pour la partie complète.
Alors. Ouais. Il y a une version du jeu en général, Philippe, qui est la meilleure, qui est, voilà, celle pour laquelle on a travaillé, qui est complète, qui est.
Et du coup, faire une version dégradée pour permettre aux gens d'apprendre le jeu.
Moi, je n'aime pas. À la rigueur, garder des variantes qu'on estime un peu plus compliquées, mais qu'on aime bien, mais ça pourquoi pas.
C'est le sens d'une variante pour toi.
C'est ça. Moi, je dirais, il y a un jeu qui est complet, qui est bon, et puis on. On rajoute quelques éléments pour gagner pour tous les goûts. Mais
c'est clair qu'il faut préciser quelle est la règle.
Eric, Bruno.
Je veux revenir sur ce que tu as dit et ce que tu viens de dire, parce que tu dis faire une version dégradée, etc. Moi, j'ai un très bon exemple qui me vient à l'esprit et qui est exactement le contraire. C'est ce qui s'est passé pour la vallée des mammouths. Dans la vallée des mammouths, moi, j'étais totalement contre les règles avancées. Je les ai essayées. Et puis j'en ai discuté avec l'éditeur. J'ai dit, moi, les règles avancées, elles compliquent, elles n'amènent rien au jeu. Pour moi, on les vire. Et c'est l'éditeur qui a insisté pour les maintenir.
Mais là, il s'agit d'aller au-delà du jeu.
Voilà, pour moi, et quand c'est arrivé dans des jeux à moi, peut-être une petite exception qui est War des Dragons, mais quand c'est arrivé dans des jeux à moi d'avoir des règles simplifiées et des règles avancées, en général, mes règles à moi, c'est les règles simplifiées. Les règles avancées, c'est quand l'éditeur a dit, ah bah tiens, t'avais parlé de ce truc-là, de ces idées-là, et c'était pas idiot, on pourrait le laisser. Alors que pour moi, après avoir essayé, je m'étais dit, on peut le virer.
Mais tu conviens. Enfin, du coup, une seule version des règles reste le.
Ah oui, mais pour je crois que je n'ai même jamais joué à la vallée des mammouths avec les règles avancées, le feu, le bordel.
C'est mais parce que c'est.
Mais c'est vrai qu'un truc.
T'as bien raison, je suis mort tellement souvent en allant chercher le feu.
un truc qui énerve souvent les joueurs, c'est si on leur propose par contre un jeu avec plein de variantes. Il y en a qui disent, bah, écoutez, moi je sais plus quel est le jeu, donc il faut faire un choix à un moment. Dire voilà, la règle du jeu c'est ça. Proposer des variantes ça pose aucun problème, ça enrichit le jeu, mais il faut bien préciser quelle est la règle principale, quel est le centre du jeu. À côté de ça, on parlait d'Andorre il y a un instant. Andorre c'est marrant parce qu'il y a des échos différents. Il y a les joueurs casuals, comme on dit, les joueurs occasionnels qui vont dire tiens, Andorre c'est génial, ça me prend par la main, ça me permet d'apprendre le jeu. Et puis à côté de ça, les joueurs expérimentés disent putain, Andorre c'est une horreur, après on retrouve rien dans la règle parce qu'elle est coupée en un tas de petits morceaux. Mmh. Et il faut les retrouver derrière. Et d'ailleurs ils font un deuxième livret de règles maintenant qui va servir plus de référence. Et donc ça illustre bien qu'il y a deux choses dans une règle, il y a la pédagogie au début et il y a la référence après.
C'est un travail d'auteur ou d'éditeur d'arriver à une seule version des règles?
Bah, un éditeur va dire que c'est le boulot de l'auteur à la base, un auteur va dire que c'est le boulot de l'éditeur.
Ah non, c'est normal,
c'est le travail de l'auteur.
Pas du tout. Sécurité,
Philippe,
pas du tout.
Philippe,
pas du tout.
Philippe a un avis.
Fouteur de merde.
Tiens, passez-moi une bière.
Bon, je vais partir.
Ah non, c'est le travail de l'auteur. C'est le travail qui. Enfin, c'est l'auteur qui décide quel est son univers, le bon système de lois, de règles de ce jeu-là, je trouve.
Vraiment. De lois.
Mais en même temps, quand tu achètes
les règles d'un jeu, oui, ce sont. Quand je dis de lois, c'est au terme de lois physiques. Hein. Si je prends le verre de bière, là, que je laisse tomber.
Cher auditeur, tu rates les yeux exorbités.
Il n'y a pas une règle qui me dit qu'il va tomber. C'est les lois physiques de l'univers.
Mais c'est vrai que la règle, c'est la loi.
Les règles du jeu, c'est ça. Oui. Mais ce n'est pas une loi qu'on doit suivre parce que sinon on va aller en prison. C'est parce que, voilà, c'est la physique de l'univers. Il fonctionne comme ça. Et donc c'est vraiment le travail de l'auteur de fixer.
Mais quand tu achètes un autre produit à l'heure actuelle, malheureusement, on voit toujours un quick start-up, on voit comment démarrer rapidement, et c'est dans l'air du temps. Donc Bruno, tu parlais de la veille des mammouths, on est quand même 10 ans en arrière par rapport à la veille des mammouths.
Je pense que la veille des mammouths sortirait aujourd'hui, il n'y aurait plus les règles.
Voilà, exactement. Donc,
ça serait mieux.
Estampillé par l'auteur. Mais donc voilà, on a besoin, les joueurs qui ne connaissent pas encore le monde du jeu ont besoin quand même d'avoir le pied à l'étrier. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens avec un t-shirt jaune ici, ils sont engagés justement pour mettre le pied à l'étrier. Et donc ça fait partie de la manière d'aborder un jeu de société à l'heure actuelle pour moi.
Ah, moi j'ai une vision assez marxienne des choses.
Ah.
C'est-à-dire que, le joueur chevronné, le geek, le joueur passionné, il a conscience d'appartenir à un groupe en fait. Il a conscience d'appartenir à quelque chose, tandis que le joueur grand public, il ne sait pas appartenir à cette masse anonyme de gens qui jouent sans savoir que le voisin fait la même chose.
Alors il faut qu'il sache que monsieur est un joueur.
Mais bien
et
sûr.
Qu'on passe de la classe en soi à la classe pour soi.
Il lui faut des règles dures à avaler. Il faut qu'il lutte.
Non, mais c'est du snobisme.
Il y a des jeux dont il y a des variantes locales que des gens appliquent jusqu'au fin fond du monde et qui donnent l'impression aux gens que tout le monde joue comme eux.
Tout à fait.
Oui. Je prends un exemple, je vais me faire jeter des. Il reste des verres de bière pleins, je vais me faire jeter à la figure. Non, mais la cache chance du Monopoly, par exemple, tout le monde a une version différente de ce truc-là.
Non, c'est le parking gratuit.
C'est parking gratuit. Ça permet de désolidariser du Monopoly, de faire une erreur là-dessus. Merci Bruno.
Cache chance, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est très clair, cache chance.
Non, mais par exemple, moi qui joue beaucoup à Race for the Galaxy, que j'aime beaucoup, il n'y a pas longtemps, je jouais avec quelqu'un qui m'a sorti une version alternative d'une règle qui m'a beaucoup surpris. Et avec le sentiment de son côté que c'était la règle absolue.
Tu t'es senti trahi ?
Ben justement, ce côté dont tu parles de classe de joueurs qui jouent tous au même jeu, j'ai le sentiment que ce type-là était pas comme moi en fait.
Mais certains auteurs parlent quand même du fait qu'à partir du moment où des joueurs modifient les règles d'un jeu, ça veut dire qu'ils se la sont appropriés et donc ils prennent ça comme un compliment.
Ah, bien sûr, Philippe, Bruno.
C'est leur jeu, s'ils sont contents avec ça, évidemment.
Pour moi c'est pas évident.
Faut-il permettre aux joueurs
Non mais il s'agit pas de l'interdire. Mais je dirais on est dans le même problème qu'avec la littérature.
Merci pour le travail.
On est dans le même problème qu'avec la littérature. Entre les auteurs qui disent j'ai écrit un bouquin et mon bouquin c'est ça, et c'est ce que j'ai voulu mettre dedans, et les auteurs qui disent le lecteur s'approprie le livre et en fait quelque chose et peut y trouver des choses que moi j'ai jamais voulu y mettre. Et je crois qu'avec le jeu j'ai toujours un petit peu le même problème. Je fais un jeu, pour moi le jeu il est quand même d'abord ce que j'ai créé, qui quelquefois a été un peu transformé par l'éditeur et pas toujours comme je le voulais, qui peut être retransformé par les joueurs et peut-être pas toujours comme je le veux non plus. Alors bon, s'il l'achète et que je touche des droits d'auteur, je suis content. Mais il n'empêche que j'ai toujours un peu l'impression que c'est pas vraiment à mon jeu qu'ils sont en train de jouer.
Oui, tout à fait.
Maintenant, il y a un point important aussi pour un éditeur, c'est ce qu'on appelle la résilience du jeu. C'est-à-dire que si un jeu est bien fait, si les joueurs foirent une règle, ça ne doit pas foirer la partie. Et c'est pas facile d'arriver à ça. Et forcément, si on est sur un jeu de gestion extrêmement précis, ça peut être un gros problème. Mais il y a beaucoup de jeux pour lesquels, si on se trompe sur une petite règle, évidemment, pas une erreur sur la règle principale du jeu, mais une petite erreur ne doit pas faire foirer complètement la partie. Et c'est pas évident. Il y a des jeux qui sont très très fragiles à ce niveau-là, il y a des jeux qui sont très solides à ce niveau-là, avec lesquels, si on se trompe un peu, c'est pas grave. Je veux dire, si on fait un jungle speed et qu'on se trompe un petit peu sur une règle, ça tourne quand même. Si on fait un Skull and Roses et qu'on se trompe sur une règle, il y en a que 2,5, ben là, évidemment, ça foire tout le jeu.
Ah, oui.
Donc la résilience change d'un jeu à l'autre.
De joueurs qui se réapproprient un jeu, ça c'est.
Oui.
Si un groupe, après avoir joué les règles correctes pour savoir quand même de quoi il s'agit, décide que voilà, ça c'est trop compliqué, ou ça, voilà, on voudrait un peu plus de chance, ou un peu moins de chance, et qu'ils sont tous d'accord pour jouer comme ça, mais moi je trouve que c'est bien, ils ont fait œuvre, créatrice de leur côté.
Ça veut dire que tu acceptes que tu as mis des règles qui servaient à rien dans le jeu?
Tout à fait.
Non, mais c'est la question quand même.
Il y a certains jeux, ils vont être joués par, je sais pas, des dizaines, des centaines de milliers de personnes différentes. Donc,
il y a un groupe qui
a envie de jouer un peu différemment, ben oui, voilà, tant mieux.
C'est même vrai dans le jeu vidéo qui est plus contraignant comme média, où il y a des formes de jeux émergentes qui n'ont pas du tout été prévues par les développeurs.
Ah, mais ça, c'est l'idéal. Hein,
voilà. On ne peut pas lutter contre ça, il faut le constater.
Récemment, on a le jeu de robot qui est Rick Veil édité.
Donc Twin Bot,
c'est ça, on a fait des dizaines de parties. Et puis récemment, j'ai vu deux joueurs qui ont commencé à collaborer. Tiens, moi je prends ce cristal-là, je dépose chez toi, toi tu déposes chez moi. Ils ont tenu parole tous les deux, et ils ont gagné beaucoup de temps par rapport aux
joueurs qui tiennent parole.
C'était pas du tout prévu dans le jeu, c'était pas du tout comme ça, ça a apparu comme ça. Un truc qui émerge comme ça d'un univers qu'on a créé, moi je trouve ça fantastique.
Alors ce Twin Box, le nom que j'ai du mal à...
Twin Box.
Ouais, je pense que ça marchera jamais parce qu'honnêtement le titre est nul.
Oui,
ça va devenir une marque de fabrique d'avoir des noms de jeux imprononçables.
C'est parce que vous avez de la bière dans la bouche.
Il faut le répéter 100 fois avant de le maîtriser.
Je laisse Bruno le dire, je vais le dire, mais je laisse Bruno le dire. Mais on en est où? Parce qu'on en avait un peu parlé à Paris Ludique.
Bien, donc l'année passée, on a fait une campagne de financement pour financer les... ça représente à peu près 40 000 euros pour sortir un jeu comme ça avec des figurines, donc c'est quand même des sous. On avait fait une campagne qui était un peu spéciale puisque c'était une campagne sur Kickstarter en anglais et une campagne complémentaire en français. Alors la campagne complémentaire a très bien marché et la campagne principale n'a pas marché, ce qui fait qu'on a annulé la campagne complémentaire puisque ça n'avait, il n'y avait pas assez d'argent pour faire le jeu tout de suite. C'est, j'allais pas prendre l'argent en disant aux gens ben merci beaucoup et on se reverra dans un an peut-être.
Annulé, c'est classe, pas que t'es reparti avec leur argent en courant.
Non, c'est justement l'idée, c'est que ça a été une opération blanche, personne n'a dû débourser quoi que ce soit. Et donc ici, ben entre temps, j'ai pu économiser un peu d'argent et donc on va recommencer une campagne normalement le 10 avril, je dis normalement parce que ce sera peut-être un jour ou deux plus tard, on est un petit peu à la bourre pour tout lancer, sur laquelle donc on va repartir sur un mode double Kickstarter en anglais pour le monde entier et Ulule pour la Belgique et pour la France,
je trouve. Et les Suisses
les
Québécois,
c'est les Québécois sur Kickstarter en fait, simplement pour des raisons de frais de port, de TVA et d'un tas de trucs vraiment pas agréables à gérer, mais
les Luxembourgeois.
On a gardé Ulule en français parce que je trouve ça important de pouvoir proposer une campagne en français sur un outil en français pour les gens. Il y en a beaucoup qui me disent les Kickstarter c'est tout en anglais, je comprends pas tout, j'ai pas trop confiance, donc là il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau là
et puis Kickstarter tu peux payer qu'un dollar.
Kickstarter on peut payer qu'en dollars et on est obligé d'être américain, donc moi en tant qu'européen je n'ai normalement pas accès à Kickstarter, je passe par mon distributeur américain qui fait l'intermédiaire pour pouvoir faire la campagne. Et donc là on va relancer une campagne avec un but beaucoup plus bas que la fois passée, 15 000 $ pour la campagne américaine et 5 000 € pour la campagne française, puisque là je suis capable de mettre au moins la moitié d'argent sur la table cette fois-ci, et c'est à peu près les montants qu'on avait eu sur la campagne précédente, donc je pense que cette fois-ci on va les atteindre et qu'on pourra enfin sortir le jeu. Ça veut dire une sortie du jeu pour fin d'année, donc pour Essen ou pour Noël.
Ah, tu vois, tu te lances, tu donnes une date.
À partir du moment où... En fait,
le jeu, il est fini.
Ce qui empêche le jeu d'avancer, c'est le pognon, hein, ouais, c'est clair. Le jeu, il est là, il est prêt.
Le jeu est terminé.
Ça fait un an que Philippe attend qu'on le sorte, donc je ne peux pas attendre plus longtemps. C'est la moindre des choses aussi. C'est aussi une question de respect par rapport à l'auteur. Je ne comprends pas les éditeurs qui signent un jeu et qui mettent 5 ans avant de le sortir. Quand on a signé un jeu, c'est qu'on veut le sortir, c'est pas constat, quoi.
D'accord, ouais, c'est pas con.
Faut savoir quand même que la logique de Eric, c'est justement de faire un Kickstarter parce que c'est super à la mode. C'est simplement.
C'est à la mode.
C'est super chouette. Et dit bon, si je veux faire mon Kickstarter, ça n'a rien à voir. Je le dis parce qu'il le dira pas. C'est que l'histoire, c'est qu'un jeune éditeur qui arrive à faire fonctionner un jeu comme Rumble in the House ou Rumble in the Dungeon, il doit maintenir ce jeu-là et qui, quand il faut faire des retirages, c'est l'argent qui a été ramené par Rumble qui va permettre à Rumble de continuer. Mm-hmm. Et donc il y a pas d'argent pour faire d'autres jeux. Et donc un truc comme Kickstarter ou Ulule, c'est vraiment du pain béni si ça marche. Et on sait que tu as appris que c'était vachement difficile finalement de faire marcher ce genre de choses là.
C'est
de lancer le jeu là. Et donc je pense que là on est à un moment où effectivement il y a une expérience et une maturité qui est apparue et qu'on sent que l'argent va arriver parce qu'il faut formater l'intro.
C'est clair qu'économiquement, effectivement, Rumble in the House, on en a sorti 3000 en se disant ça va peut-être pas se vendre du tout, ça va peut-être marcher, on verra bien. Ça a super bien marché, on a dû en refaire 5000, donc ça a englouti évidemment tout ce que les 3000 premiers avaient fait. Là j'en ai 10 000 qui arrivent, ils arrivent chez Yellow pour la distribution en France cette semaine, ça a été payé avec la vente des 5000 et après ça va continuer aussi, donc Kickstarter
en bref,
et Ulule
jusqu'à ce qu'il y ait un Rumble in the House dans chaque maison, t'as aucune chance de rentrer dans tes frais.
Non, mais c'est pas grave, je continuerai. mais ceci dit, l'utilité de Kickstarter, l'utilité d'Ulule, c'est effectivement de pouvoir lancer un nouveau jeu, parce que les ventes de Twin Teen Bot permettront de retirer du Twin Teen Bot, etc. Et donc ça permet de lancer un nouveau jeu sans être obligé de prendre une hypothèque et de prier pour pas perdre sa maison, ce qui serait complètement idiot, quoi.
Du coup, enchaîner les jeux, tu penses qu'il y a une vocation à sortir des gammes entières en Kickstarter ou est-ce que tu penses qu'il y a un risque de saturer le marché du Kickstarter ? la sollicitation du Kickstarter en tout
cas. Ça fait des années qu'on dit que le marché va être saturé. Je ne suis pas sûr que le marché soit proche de sa saturation, mais à côté de ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand une boîte comme Queen, qui a largement les moyens de prendre des risques sur des nouveaux jeux, les sort directement sur Kickstarter, je me pose des questions. Quand une boîte qui a des moyens sort un petit jeu de cartes sur Kickstarter, je me poserai des questions aussi. Par contre, si un gros éditeur sort un jeu sur Kickstarter parce que c'est un jeu risqué, parce que ça demande un gros investissement...
Ogre par exemple, ça
n'a rien de surprenant et c'est tout à fait légitime. Et donc c'est vraiment là qu'il faut voir, c'est chaque jeu est différent, chaque jeu s'inscrit dans un contexte particulier et donc il y en a pour lesquels c'est justifié, il y en a pour lesquels c'est moins justifié. Maintenant, saturation, non, j'y crois pas, je pense qu'on a encore largement le temps de voir venir parce que premièrement le marché du jeu est en forte expansion et deuxièmement il y a encore énormément de choses à essayer sur ces médias-là.
Il faut apprendre à écrire les règles.
Il faut apprendre à écrire les règles. Mais au niveau des détaillants, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des détaillants américains qui disent « Si le jeu a été financé sur Internet, je ne le prendrai pas en boutique. » Parce qu'il part du principe que l'essentiel a été déjà vendu en direct à des particuliers. Il y a des distributeurs qui disent « Si un éditeur vend ses jeux en direct aux particuliers pour les financer sur une campagne, je ne vois pas pourquoi moi je le distribuerais derrière. » Donc c'est vraiment des choses pour lesquelles il faut discuter, et des choses pour lesquelles il faut trouver des formules qui fonctionnent un peu pour tout le monde. Ici, pour la campagne, je vais essayer différentes choses à ce niveau-là. Et vraiment, ça pose plein de questions. Il y a des débats là-dessus. Il y a des centaines et des centaines de pages de forums sur le sujet. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment une terre en friche.
Bruno, toi qui as beaucoup fait pour saturer le marché du jeu, t'as une...
Alors, j'ai plein d'opinions sur un peu tout ce qui vient d'être dit. D'une part, le marché du jeu, je ne pense pas non plus qu'il soit complètement saturé.
Ah, complètement saturé.
Enfin, disons, je ne pense pas qu'il soit saturé. Je pense qu'il y a... Alors, c'est vrai, je dirais, le problème, c'est que le marché augmente, les ventes augmentent. En même temps, il y a plein de gens qui arrivent en disant « Tiens, j'ai vu de la lumière, je suis rentré.
Hein, » Ici, hein, par exemple, hein, disons-le, Ludinor.
Ouais, voilà. Non, je parle d'éditeurs. Hein, plutôt.
Ah, parce que niveau public aussi, ça continue de croître.
Oui. Non, mais je parle d'éditeurs et d'auteurs. C'est-à-dire de gens qui arrivent en disant « Bon, bah, il y a un certain nombre de secteurs qui piétinent un peu. La BD, c'est plus ce que c'était. » Le jeu vidéo, oui, bon, ça continue à marcher, mais on est vraiment trop nombreux. Et donc, on voit arriver des gens qui disent, tiens, on va essayer par là. Et c'est vrai que le résultat, c'est que l'offre augmente. La demande augmente aussi. Et j'ai l'impression, alors, honnêtement, le côté business, je ne regarde pas de très près. Donc, Eric a sans doute un jugement meilleur que le mien. Mon impression, c'est que grosso modo, ça augmente à peu près à la même vitesse l'offre et la demande. Et que grosso modo, depuis 5 ou 6 ans, les premiers tirages des jeux doivent rester à peu près les mêmes. Alors, bien sûr, ceux qui sont là...
Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a une dilatation du marché vers des produits, finalement, qui sortent à peu près de nulle part ?
Oui, un peu. Bien sûr, les gens qui sont déjà là, les gros éditeurs qui sont déjà là, bah, ils sont pas contents qu'il y ait des petits nouveaux qui arrivent. Ils préféreraient que tout ce qui grossit, ça soit pour eux. Hein ? Il se trouve qu'ils résistent parce qu'ils continuent à vendre autant et que les petits qui arrivent, bah, ils se font leur petite place. Et donc, je pense pas que le marché soit complètement saturé.
Il y a une différence entre créer dans le marché d'aujourd'hui et créer il y a, disons, 10 ans.
Ah, pour
je
ne
dis
auteur,
pas plus pour ne pas être plus déplaisant.
Pour un auteur, il y a une différence énorme. Pour un auteur, il y a une différence énorme. Il y a 10 ans, j'étais tout seul.
Ouais.
Il y a 10 ans, je présentais des trucs à des éditeurs de jeux, des auteurs, ils n'en connaissaient pas beaucoup. Ah, j'ai envie de dire, j'avais pas vraiment de concurrent. Donc, bien sûr, si je faisais une merde, personne ne l'a publié. Mais à partir du moment où je faisais un bon jeu, je savais qu'il allait trouver un éditeur.
Et aujourd'hui, t'as le sentiment qu'un bon jeu peut peiner à trouver un éditeur ?
Aujourd'hui, un bon jeu peut ne pas en trouver du tout.
Et même en trouver un et pas trouver son marché. Ce qui est dommage.
Alors, c'est quoi pas trouver son marché ? Parce que s'il y a de plus en plus de joueurs, il y a bien un marché qui normalement est
de plus en plus de niche. Beaucoup plus de jeux. Moi, j'ai l'impression que le nombre de jeux augmente plus vite que le nombre de joueurs, mais ça c'est.
Ah.
Parce que les règles sont mal écrites.
Il y a... Les jeux sont plutôt de meilleure qualité qu'avant.
Oui, là je suis d'accord.
Je vois les forums, on se plaint tout le temps de la qualité des jeux, mais ça je suis pas d'accord. Globalement,
c'est aussi parce que les internautes ont plus la parole. Sur du temps du Minitel, personne ne se plaignait, quoi.
Du point de vue conception des jeux, du point de vue règles, je suis désolé, on prend le jeu moyen d'il y a 20 ans et le jeu moyen d'aujourd'hui, la qualité s'est sacrément améliorée.
Il y a un truc qui a par contre beaucoup rétréci, c'est la durée de vie d'un jeu.
Oui, ça c'est vrai.
C'est vraiment un truc sur lequel je travaille et c'est vraiment pas facile, mais c'est qu'il y a beaucoup de jeux, on les voit apparaître, on en parle, on les porte au nu, on dit voilà c'est génial machin etc, et puis 6 mois après plus personne n'en parle. Et le nombre de jeux qui deviennent des classiques, c'est-à-dire des jeux auxquels après 2 ou 3 ans on continue à rejouer, lui reste constant malgré la production qui augmente de manière phénoménale. La quantité de jeux qui arrivent sur le marché augmente terriblement, mais le temps, la durée de vie du jeu diminue. Et c'est très difficile de faire un jeu qui va, après 1 an, 2 ans, 5 ans, encore être sur les rayons et avoir sa place.
Alors justement, j'ai une question pour Philippe à propos de Small World, Vinci et même Olympos, à la limite, qui a le même type de mécanisme, il m'a semblé. Est-ce que, c'est mon avis, hein. Est-ce qu'un jeu comme Small World qui a connu 3 extensions, je crois 4, vous êtes à...
Bon, plus que ça.
Plus que ça, oui.
Plus que ça.
Je pense qu'on est à 7 ou 8.
Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de continuer à le faire vivre, sachant que ça a été quand même un succès, on peut le dire.
Mais je crois qu'il y a une grosse différence entre les jeux qui vont du moins être un succès et ceux qui vont être, je ne vais pas dire mort-nés, mais qui auront 6 mois de vie, qui n'est pas parallèle à la qualité intrinsèque du jeu.
On peut dire des jeux jetables.
Non, c'est pas ça. Pour qu'un jeu marche, il doit atteindre un certain niveau de notoriété. Et puis après, bon, voilà.
Il peut
devenir un classique.
Mais selon
il y a des très bons jeux qui se sont vendus à 1000 exemplaires et puis qu'on n'a plus vu, alors qu'ils auraient pu avoir, avec un peu de chance, avec peut-être des meilleurs graphismes.
Voilà. C'est quoi un niveau de notoriété? Tu parles du niveau de notoriété du jeu.
Soyons
clairs, Bruno. C'est un niveau de vente. Oui, t'as vendu 10 000 boîtes d'un jeu, tu sais que t'en vendras 50 000.
Donc
t'as vendu 3 000, ça s'arrête là.
Ça passe uniquement par les ventes.
Je simplifie un peu parce que Philippe a raison.
Non, mais je pose la question.
C'est de la notoriété. Mais c'est vrai qu'il faut qu'un jeu aujourd'hui dépasse un certain seuil, se fasse connaître pour rester. Sinon, il y a d'excellents jeux qui passent totalement inaperçus, qui parfois un peu par hasard resurgissent 10 ans plus tard. Là, j'étais tout à l'heure avec Stéphanie de Leteia qui va ressortir un jeu allemand sorti il y a 15 ans que personne n'a remarqué, qui a été complètement oublié. Et qui est absolument génialissime. J'espère que cette fois-ci va marcher. Il se trouve qu'il y a 15 ans, quand il est sorti, en plus chez FX Smith, qui n'était pas une petite boîte, etc., ce jeu est passé inaperçu pour un certain nombre de raisons. Aujourd'hui, il a encore 10 fois plus de chances de passer inaperçu. Et il est génial.
Donc, il mérite du coup qu'on y revienne aujourd'hui.
Et je pense qu'il mérite qu'on y revienne. Mais c'est la question du coup de bol. C'est vraiment du coup de bol. Hein, le même jeu. Sorti au bon moment, avec le bon dessin, etc. Il n'y en avait pas d'autres du même style qui sortaient en même temps. Il va faire un tabac et il va rester 20 ans. Il va disparaître et ne plus être là 6 mois plus tard.
C'est du bol, c'est pas du marketing, c'est pas que le budget pub, c'est du bol.
C'est du bol.
Mais aujourd'hui, il y a quand même énormément de moyens différents pour faire parler de son jeu. Ça n'était pas le cas il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un des exemples, c'est, vous le voyez avec Monster Games. Quand Monster Games est arrivé, Emmanuel Beltrando n'a utilisé que les réseaux sociaux et il a obtenu une quantité de fans énorme parce qu'il avait justement le bon feeling et la bonne manière d'utiliser les réseaux sociaux pour faire parler de lui. Maintenant, il y a le Kickstarter. On peut tester une idée maintenant simplement en voyant si est-ce que ça marche, est-ce que les gens sont d'accord de me donner de l'argent pour faire mon jeu. Il y a tellement de jeux qui sortent par an, donc l'année passée on a quand même parlé de 800 jeux par an, on commence à parler de 1000 jeux par an pour cette année. Il y a énormément de jeunes auteurs qui, comme ils ont fait connaissance avec le milieu du jeu, se disent « moi aussi je peux faire mon jeu » avec l'accent belge. Et donc,
tu le fais bien.
Bah oui. Exemple très simple, sur la dernière soirée terrible, j'avais 5 prototypes différents, de personnes que je n'avais jamais vues, dont on n'avait jamais entendu parler, et qui arrivent avec des prototypes qui sont quand même assez avancés. Je regarde Eric parce qu'il était là. Les prototypes étaient suffisamment avancés. Maintenant, ces gens doivent faire parler d'eux, atteindre un certain niveau de notoriété.
Il y avait donc Frédéric Moyersoon aussi. Alors lui, c'est pas un inconnu. Hein, c'est
non, 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 non. Mais quand Frédéric, je le mets pas dedans. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des gens qui ont créé leur propre jeu, qui se lancent dans l'édition, dans l'auto-édition. Et malgré ce qu'on dit, mais pourquoi est-ce que tu te lances dans l'auto-édition ? On va d'abord voir des éditeurs. Ils le font quand même. Et donc, ils doivent absolument réfléchir à une manière d'avoir la notoriété suffisante. Et ça va passer par, je reviens dessus, mais vraiment pas par boutade, l'écriture de règles correctes, la démonstration de jeu, la vidéo, l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, il y a une offre gigantesque, il y a une demande qui peut devenir gigantesque si le public est suffisamment mené par la main pour pouvoir acheter les boîtes que tous ces gens commencent à mettre sur le marché.
Allez, la question provoque. Un mauvais jeu qui fait beaucoup de buzz avec des jolies illustrations et la sensation que les règles sont peut-être bien.
Honnêtement, il ne marchera pas.
Je pense, oui.
Il ne marchera pas.
Attention, qu'est-ce qu'on appelle un bon jeu ? C'est le jeu qui va te procurer une expérience que tu as envie de revivre.
Oui, mais au moment, au moment où tu fais ta promo, personne n'y a joué.
Non. Aujourd'hui, pour qu'un jeu se vende, il faut qu'il soit bon. Ça ne suffit pas. Un bon jeu a 9 chances sur 10 de ne pas se vendre, mais un mauvais jeu, il a 0 chance sur 10 de se vendre.
C'est le côté positif de la production qui a augmenté, c'est qu'on ne peut plus avoir un bon emballage sur un mauvais jeu et dire ça passera. C'est fini.
Mais est-ce que tu n'as pas peur justement que les expériences... Le fait d'avoir... Le terme bon jeu, c'est quand même super subjectif, on est tous d'accord.
Alors, je peux intervenir.
Bruno,
parce que, par rapport à ce que vous dites tous les deux, quelque part, Kickstarter, effectivement, remet ça un tout petit peu en cause.
Oui.
Parce qu'avec Kickstarter, tu peux, si tu sais écrire, faire croire que tu as fait un bon truc alors que tu as fait une merde.
C'est tout à fait temporaire. Comme dans tous les trucs sur Internet qui ont explosé à un moment, prenons les images avec... le métier de photographe a été flingué par Internet. Il y a vraiment un parallèle là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui fait la valeur des banques d'images en ligne ? C'est pas tellement la quantité d'images, c'est la qualité des filtres qui sont proposés. Sur Kickstarter, il n'y a pas encore beaucoup de filtres qui sont proposés, mais c'est là que les blogueurs, les journalistes et d'autres vont pouvoir, par les critiques, offrir un filtre au public. Et c'est vraiment le filtre qui va avoir de la valeur ajoutée là-dedans. Oui.
Tu penses qu'il faudrait un filtre sur Kickstarter ne montrer que les bons jeux ?
Non, mais c'est pas ça que j'entends par un filtre. Par un filtre, j'entends quelque chose qui permet au public de faire une décision informée et de se dire, tiens, voilà, ce truc, c'est du bricolage et ce truc, c'est un vrai jeu. C'est un jeu qui a été testé, qui fonctionne, etc. Et ça ne suppose absolument pas que ça a été fait par un éditeur ou par un auteur connu. Je veux dire, un inconnu peut arriver et sortir un jeu qui va être sublime. Et si le mec sait en plus dessiner, etc., il peut faire un truc vraiment génial. Mais il faut que ça puisse se différencier du reste, et ça va se différencier sur la qualité.
Alors justement, pour se différencier sur la qualité, on va commencer à quitter tout doucement le mode consensuel par rapport aux jeux de société. On est tous conscients qu'on est dans un mode de niche et qu'on est tous d'accord pour dire « ce jeu-là, il est génial ». On va quand même pas dire qu'il est nul, même si on l'a pas aimé, parce qu'on est dans une niche et qu'on parle, on passe de l'information.
Ça dépend. Moi, il y a des jeux, enfin, je pense qu'on est tous comme ça. Il y a des jeux, on n'a pas du tout... Enfin, je vais rien intervenir.
Donc, on n'en parle pas.
Il y a des jeux, on n'a pas du tout aimé.
Mais je suis d'accord.
Non, on n'a pas du tout aimé, mais il y a quand même un truc qui s'est passé. Moi, je sais qu'il y a des excellents jeux, jamais j'y jouerai parce que c'est pas mon truc.
Mais
je reconnais quand même qu'il y a un moment où le jeu, il m'a regardé et j'ai compris qu'il avait
gagné.
Alors,
justement, il faut quitter le côté bon jeu, mauvais jeu, parce que c'est un mode de discussion totalement binaire et qui n'est pas correct. On ne dit pas ah, c'est un bon livre, c'est un mauvais livre, c'est un livre qui m'a procuré une expérience. J'ai adoré ce film parce que c'est pas un mauvais film ou un bon film. Donc, on arrive tout doucement à parler. On arrive tout doucement à parler du jeu. Vu le volume qu'il y a par an, on va arriver tout doucement à avoir des vraies critiques de jeu qui vont dire je n'ai pas aimé parce que, mais au moins on sait que cette personne n'aime pas ce genre de jeu là. À l'heure actuelle, on est encore sur la balance, on dit je vais quand même pas dire que ce jeu fonctionne pas, je vais pas dire que j'aime pas ce jeu là de peur de bon.
Parce qu'on est dans un environnement de fans, quoi.
Tout à fait.
Moi je suis qu'à moitié d'accord. Mais à moitié.
Tant mieux.
C'est-à-dire que effectivement, là, devant le micro, je vais pas dire ce jeu-là c'est une merde.
Non.
Mais
non, il n'y a pas d'ego à voir là-dessus, je suis d'accord.
Mais avec mes copains, je vais le dire.
Oui.
Tout à fait.
Mais il y a encore, il y a des critiques littéraires et des critiques de cinéma qui à l'heure actuelle disent ce film-là, écoutez Le Masque et la Plume. Quand on fera Le Masque et la Plume avec des jeux de société, on aura atteint un nouveau niveau.
C'est ce qu'on voulait faire à la radio des jeux, puis.
Non, je suis pas d'accord. Enfin, je me permets de relancer parce que moi c'est notamment dans le cadre de la radio, j'ai une question qu'on s'est beaucoup posée. Et est-ce qu'il existe une notion comme une critique de jeu ? Par exemple, faire une critique de cinéma, on fait une critique d'un livre, on peut parler de son style, de son truc et tout. Mais un jeu, finalement, c'est un petit peu ce que disait Philippe tout à l'heure. C'est un ensemble de mécanismes avec des joueurs qui se l'approprient plus ou moins. Et c'est ça qui fait.
Tu as quand même une idée de qualité dans un jeu qui est très importante. Je veux dire, comme pour un film, comme pour un livre. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux. C'est pas. Tous les jeux ne sont pas pour tout le monde, mais ça, c'est autre chose.
Au point de pouvoir produire une critique ?
Ah oui.
Ah, bien sûr, ah oui, tout à fait.
Complètement. Il se trouve que je ne le fais plus. J'ai arrêté depuis un an, mais pendant longtemps, j'ai fait des critiques de jeux sur mon site web. Et je pense que j'essayais de... Alors, je ne faisais que des critiques positives parce que j'avais pas envie de démolir les jeux que j'aimais pas, mais il y a des jeux dont j'aurais été parfaitement capable de faire des critiques négatives. Et, et je pense que je construisais ces critiques un peu comme on construit des critiques de bouquins ou de films.
Tout à fait.
Alors, mais juste avant de laisser la main à Matt, moi je tiens à dire un truc, c'est que j'ai beaucoup suivi ton blog et ça c'est pas de la fausse
plâtrie.
Non, mais je tiens à le dire. Mais il y a des jeux sur lesquels par exemple tu donnais ton avis et je me disais s'il l'a aimé c'est qu'il doit être bon et qu'en fait j'ai pas aimé du tout. Indépendamment de tout, tout style ou tout. Comme quoi ça reste très subjectif.
Ah bah bien sûr, mais un film c'est pareil. Il y a des films géniaux que je trouve. Enfin, géniaux. Donc tout le monde s'accorde pour les trouver géniaux et que je trouve chiants. Et la littérature, c'est pareil, c'est personnel. Donc, un bon critique, c'est celui qui sait en même temps dire pourquoi lui il a aimé, lui il n'a pas aimé, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, mais aussi ce qu'il y a, à quoi ça se réfère, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une culture du jeu, comme il y a une culture du cinéma, comme il y a une culture de la littérature. Un jeu, c'est des références à d'autres jeux, etc. etc. Et donc, il y a tous les éléments qui permettent de construire une critique et qui permettent à celui qui la lit de se dire ce jeu il est pour moi ou il est pas pour moi ou ce jeu il est censé être pour moi et c'est une merde.
Oui, mais maintenant par rapport au milieu du jeu, il faut quand même accepter la critique, c'est-à-dire que comme je dis, on est dans un milieu de niche. Donc ce que tu dis par rapport à un public non joueur, évidemment lire un article en disant ah ce jeu est pour moi, ce jeu n'est pas pour moi, ça c'est déjà une chose. Maintenant il faut que le milieu lui-même accepte qu'on puisse critiquer leur jeu et leur dire dans un certain magazine, dans un certain article média, de dire bah, ce jeu-là je ne l'ai pas aimé. C'est tout, et c'est ça que je veux dire, il y a une susceptibilité qui va tout doucement se calmer.
On a un travail de
calmer.
Construction à faire au sein d'une communauté hypothétique.
Il faut aussi identifier le public de la critique en question, parce que, pour caricaturer, on a les joueurs cubes en bois, les joueurs jeux d'ambiance, vraiment pour caricaturer. Bah, si j'écris
il
n'y
a que les
joueurs
cubes en bois, en fait.
Bah, peu importe, si j'écris une critique d'un des jeux, il faut que je puisse dire, tiens, voilà, ce truc ne m'a pas plu parce qu'il y a énormément de hasard dedans, alors qu'il y a d'autres gens pour lesquels c'est pas du tout un problème et qu'il y a des joueurs qui veulent absolument contrôler.
Mais il faut l'exprimer comme ça. Voilà. Mais très souvent, on trouve des gens qui disent ce jeu, Michel a gagné au deuxième tour, c'est la preuve que ce jeu est nul. Et ça s'arrête. Enfin, je caricature, mais ça s'arrête là.
Je pense qu'effectivement, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer, mais il y a effectivement plusieurs, je dirais, tendances, plusieurs types de goûts, plusieurs styles en matière de jeu, et certains ont cette espèce de propension au jugement élitiste que d'autres n'ont pas. Et c'est particulièrement vrai des joueurs de jeux, je dirais, stratégiques, un peu à l'allemande, plein de cubes, des jeux comme fait Philippe.
Philippe sourit.
Qui ont tendance à dire de tous les autres, enfin des jeux dans lesquels il y a plus de hasard, de l'ambiance, dans lesquels on saute sur la table, où on pose des cris bizarres, etc. Ils disent c'est de la merde.
Ça, c'est pas vraiment un jeu, excuse-moi Bruno. Mais...
et autour d'un jeu avec des cubes en bois, on pousse parfois des cris bizarres en sautant autour de la table.
Mais ce, qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas l'inverse. Il n'y a pas l'inverse.
Non.
À part quand Tom le fait, mais c'est du second degré. Hein. Mais sinon, il n'y a pas l'inverse.
Tom Warshek, ça.
Voilà. Oui, il n'y a pas de gens jouant à des jeux, enfin aimant les jeux d'ambiance, les conneries, style Time's Up, Jungle Speed, etc., décrétant que Puerto Rico c'est de la merde.
C'est parce qu'ils l'auront pas essayé probablement.
Merci Philippe.
Si ils jouent Puerto Rico, ils vont jouer aux autres jeux. Non, c'est parce que dans le monde du jeu d'ambiance, ça se fonctionne autrement. Si tu dis que Puerto Rico c'est de la merde, il y a la Ligia qui fait sauter ta maison et puis c'est tout. Donc forcément, les gens tiennent à carreau.
La Ligia qui est la ligue des intégristes du jeu d'ambiance.
La ligue intégriste des jeux d'ambiance, oui.
Matt.
Mais je me posais là, parce que je sais pas où poser mes fesses dans ce débat.
Viens sur mes genoux.
D'accord.
pas sur les miennes.
Non, mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à essentialiser ce qui fait un bon jeu. C'est-à-dire qu'il y aurait des critères, objectifs.
Il n'y a pas.
Alors, oui, mais par exemple, quand on. Par exemple, moi, je me forme au mauvais. C'est-à-dire que pour souvent, pour savoir ce qui fait les bonnes choses, je m'initie aux mauvaises. Mmh. Alors, ça part d'un a priori subjectif.
C'est très courageux.
Non, mais ça part d'un a priori subjectif.
Au niveau du vin, ça a dû être terrible. Hein.
J'ai été très friand. J'adore le cinéma. Et j'adore le cinéma parce que j'ai vu énormément de films que j'estime être très mauvais. Mmh. Et j'ai volontairement visionné des films que je savais être mauvais. Et
que tu estimes être
voilà.
très mauvais.
Oui, mais je c'est ma zone de confort.
Ah, tout à fait, tout à fait.
De sécurité. Mmh. Et ce qu'on appelle des nanars, des choses qui sont universellement reconnues comme des échecs, des choses qui ne vont pas à tous les niveaux, etc. Et qui m'apprennent beaucoup plus sur ce que fait le bon cinéma que de voir un bon film directement, en fait.
Alors, oui, mais la question à ce moment-là, as-tu envie de t'amuser en jouant ou d'en apprendre plus ce qui fait le bon jeu, auquel cas je peux te conseiller un certain nombre de très bons jeux.
Alors, mais tout à fait.
C'est aussi une question de construire le goût.
Tout à fait.
Construire le goût des joueurs, ça se fait comment?
Non, mais non, le goût c'est Philippe. Une chose, la qualité c'est une autre, je crois.
Ah, c'est quoi alors?
Effectivement, tu peux avoir un goût pour du hasard ou pour du réflexion, mais une fois que tu es dans un. Quand on crée un jeu, on est tout le temps dans cette question de qualité. Parce que le jeu que vous allez voir en magasin, ben, il aurait eu 25 versions avant, ou 100 versions, ou 200 versions. Et si je passe d'une version à l'autre, c'est parce que j'estime que celle-là, elle est meilleure que la précédente. Il y a vraiment une histoire de qualité.
Et le jeu est un produit collectif, c'est-à-dire que l'auteur a fait son jeu, il a sorti un jeu qu'il estime être terminé, et puis il y a l'éditeur et ou le développeur, c'est parfois des personnes séparées, mais qui vont travailler dessus, puis il y a les playtesteurs qui vont venir d'horizons différents et avoir des opinions différentes, et le jeu qui va sortir quelque part après va être le produit de toutes ces couches de travail qu'il y a eu et de toutes ces idées différentes qui auront été amenées.
De toute façon, qu'est-ce qu'on juge dans un jeu? On juge la réalisation d'une intention.
On juge le plaisir qu'on a eu.
Oui, alors,
on juge l'expérience qu'on a eue en jouant au jeu.
Oui, alors, ouais.
On juge l'intangible par rapport à du tangible.
Tout à fait. Ça, c'est le premier élément de jugement.
Il y a des critères plus simples. Hein. C'est à la fin de la partie, quand on se dit « Ah, déjà !» Et quand on se dit « J'en referais bien une !»
Et on jouait à Agricola.
Là, il n'y a pas de question à se poser sur ce que le jeu a apporté ou pas, machin, etc. C'est clair qu'on a passé un bon moment et qu'on a envie d'en faire une. Et il ne faut pas prendre la tête pour le plaisir non plus, sinon c'est de la masturbation. Quoi. Il faut se dire « Ben voilà, on a quelque chose, on a passé un bon moment, on est content, on a envie de recommencer. » Enfin, c'est aussi de la masturbation, vous allez me dire. Mais bon, toujours est-il que c'est ça qui fait un bon jeu.
Ce n'est pas sale.
Ce n'est pas sale, ton corps change.
Non, mais blague à part, c'est vrai qu'il y a un peu cette notion. Il y a cette notion, moi, quand je regarde mon étagère à jeux et que je me dis qu'est-ce qu'on va faire ce soir, il y en a ma main se dirige naturellement vers, il y en a je me dis j'ai pas envie ce soir. Non mais c'est un
ce
peu
soir.
Ça. Oui, voilà, ce soir oui.
Non mais
il y a ce côté par rapport au bon jeu, c'est aussi le jeu qu'on a envie de recreuser, dans lequel on a envie de se replonger.
Mais ce que tu disais tout à l'heure à l'éducation au goût et ce que tu disais à l'éducation à la qualité. C'est Philippe. Ce que tu disais, le salé, le sucré, l'amer, l'astringent, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait. Voilà, quand tu bois du vinaigre, c'est comme ça. Un jeu de majorité, c'est ça. Un jeu d'ambiance, c'est ça. Un jeu de bluff, c'est ça. Et puis après, j'ai envie de dire, Alain Ducasse, qui n'est pas auteur de jeu, on est d'accord, disait si un client a envie de manger du foie gras que je lui ai fait moi-même avec un verre de coca et que ça lui provoque du plaisir et qu'il a envie de le manger comme ça, qu'il le mange comme ça. Il n'y a aucun souci pour moi. Non, c'est la théorie. Mais je veux dire, ça c'est la notion de qualité. La notion de qualité c'est quelque chose de super subjectif. Donc si j'ai envie de faire de la majorité avec du bluff et que moi ça me provoque une expérience qui fait du plaisir, ça deviendra un bon jeu.
Eric,
non, je vous mets au défi de faire un jeu de majorité avec du
bluff. Non, je me dis c'est vachement intéressant. Un jeu de majorité avec du bluff, personne ne l'a encore fait.
Bah, si, c'est... Attends, il y a Mission Planète Rouge. Hein.
Ah bon
Merci Bruno.
Ça c'est fait.
Ouais, mais, non, ça c'est trop facile parce que je crois que je peux sortir à peu près n'importe quel principe de jeu. Tu vas me dire j'en ai fait un.
Non, pour te répondre, Philippe, Alain Ducasse c'est un grand. Non, et je respecte son point de vue. De toute façon, je
connais.
Par contre,
Alain,
non,
si tu nous écoutes,
je connais bien Alain.
Merci Alain.
Mais je respecte autant un barman qui voudra pas que je mette des glaçons dans mon whisky.
Oui.
Et il ne voudra pas, il ne mettra pas de glaçons dans mon whisky. Parce que son boulot lui est dicte de ne pas en mettre.
Son boulot lui dicte, mais les familles qui viennent ici, qui ne connaissent pas le jeu de société et qui viennent à Ludinor pour la première fois, ils sont foutent de savoir que, si on peut pas, que quelqu'un dans le monde décide qu'on ne peut pas mettre du glaçon dans son whisky.
Dans son jeu.
Dans le glaçon dans son jeu. Ouais. Ça me rappelle un jeu.
Oui. Oui, ça me rappelle un jeu.
Non, on n'en parle pas, on n'achète pas un procès. Hein.
Philippe, si on joue à Evo avec du coca, si on joue à Evo en buvant du coca,
pas de problème.
C'est mal, c'est le mal.
Non, mais on n'est quand même pas complètement prêt à avoir des critiques machin. Enfin, moi, j'en reprends avec toi, Eric. Quand tu dis quand même que tu galères un peu pour financer ton prochain jeu, tu le finances, tu le balances. voilà, tu vois trois personnes qui ont, on va dire, le pied à l'étrier dans le monde du jeu et qui t'envoient trois critiques et tu envoies trois critiques pourries qui te le défoncent.
Tout à fait.
Je pense qu'on n'est pas encore complètement prêt.
En fait, très honnêtement,
je ne pense pas qu'un réalisateur de film ou qu'un écrivain réagisse différemment.
Bien sûr. Et si quelqu'un fait une critique d'un jeu que j'ai sorti, allez, prenons Rumble in the House, ça c'est quand même un bon exemple, parce que Rumble in the House, il y a trois règles et demie, c'est très très simple. Il y a des gens qui ont dit,
il faut t'arrêter de parler de demi-règles, c'est très perturbant.
Non mais c'est important.
C'est un jeu où tu...
Il y a des gens qui ont dit, voilà, j'ai acheté le jeu, ou j'ai l'occasion d'en faire une partie, j'ai pas compris, c'est débile, ça sert à rien, machin, etc. Il y en a qui adorent. Mais quand quelqu'un dit, je n'ai pas aimé parce qu'on contrôle rien grand chose, parce que le bluff c'est pas mon truc, etc., j'ai rien à redire. Ouais. Il explique pourquoi il n'a pas aimé et c'est tout à fait normal. En plus, il donne un avis qui va permettre à d'autres de se faire une opinion, de savoir si le jeu est pour eux ou pas.
Mais
ça,
là,
c'est génial.
Là, on aime la critique argumentée.
Par contre, le mec qui dit, voilà, j'ai essayé, c'est nul et qui n'en dit pas plus, ben oui, à chaque fois, moi, ça me fout en rage, évidemment, parce que ça n'apporte rien. Ça n'a rien de constructif, ça ne dit pas pourquoi. Et donc d'autres personnes ne savent pas si c'est bien ou pas. Ils ont juste quelqu'un qui s'amène et qui dit c'est nul. Mmh. Ben, en fait c'est nul de dire c'est nul.
Mais est-ce que là du travers sur le, enfin je sors un peu, mais est-ce que là du travers sur purement le jeu, c'est pas globalement le travers de Monsieur Michu qui donne son avis sur Internet et que ça concerne tout.
C'est la magie d'Internet.
Bien sûr.
Non, quand je regarde une recette de cuisine et qu'on me dit c'était très bien, mais j'ai remplacé le foie gras par du rognon et la sauce madère par du vin rouge.
Ça a plus de goût.
Voilà, ça a plus de goût.
Donc, ce que tu vas voir sur Internet, c'est des gens qui sont arrivés à la moitié des règles, ils prennent leur PC, ils commencent à rédiger leur première critique. Ils n'ont pas encore ou posté des variantes, ils n'ont même pas lu les règles jusqu'au bout. Mmh. Et alors qui commencent, j'ai pas joué le jeu, mais je trouve que tatati tatata. Évidemment, ça c'est pas.
Mais c'est en même temps, c'est aussi au lecteur de savoir trier. Moi, je vois pour la littérature, j'utilise énormément les critiques sur Internet, sur Goodreads ou sur Amazon. Mmh. Bon, y en a bien sûr un certain nombre. Déjà, je m'en aperçois parce qu'elles sont mal écrites, parce que machin, etc. Elles sont pas pour moi. Et je vois des critiques de gens qui ont l'air d'apprécier les mêmes trucs que moi, et je vois ce qu'ils pensent. Et j'en déduis si ce bouquin a des chances de m'intéresser ou pas.
Tout à fait. Et on en revient au filtre.
Et pour les jeux, c'est pareil.
Oui. On en revient au filtre.
Moi, je veux dire, il y a un outil. C'est tout con, mais ces 20 dernières années, il y a un outil qui a changé ma vie. Hein, c'est le fait sur Amazon que quand vous achetez un bouquin, il vous dit quels sont les bouquins qu'ont acheté les mêmes personnes. Mmh. Et ça marche diablement bien.
Bien sûr.
Bon, recommandation. Pour les jeux, c'est une sorte de jeu, ça peut marcher de la même manière.
Mmh. Et on voit apparaître ça. Si on regarde la bêta de Trick Track sur laquelle ils sont en train de travailler, là, ben, ils mettent ce genre de choses en place. Et c'est effectivement quelque chose qui a une grande qualité. C'est un système qui peut être biaisé. Évidemment, il y a moyen de jouer le système, mais d'un autre côté, c'est la vérité par les nombres quelque part. C'est si j'ai pris tel jeu et que la majorité des gens qui ont pris tel jeu ont pris tel jeu aussi. Enfin, si quelqu'un est fan de Puerto Rico, il y a des fortes chances qu'il aime aussi Kailus. Ce sont des choses qui sont assez évidentes et ça paraît immédiatement dans les chiffres.
Oui. Bruno, toi, sur la ludothèque idéale, tu disais ce jeu ressemble à de mémoire.
J'ai essayé de faire ça.
Vous avez aimé ça, vous aimerez ça.
Ceci dit, c'était très individuel. Il n'y avait pas de base de données monstrueuse, statistique derrière. C'était mon impression à moi.
C'est peut-être plus malin qu'un algorithme.
C'est souvent plus malin.
Je ne suis pas sûr.
Si on est dans la subjectivité, oui. C'est-à-dire qu'on part sur les mêmes sentiments.
Alors, je vous pose la question à des gens qui créent des jeux, donc ont plutôt la tendance à faire leur propre route, j'ai envie de dire, dans les choses. Vous avez des goûts totalement atypiques? Un jeu que vous êtes le seul à aimer, ou alors un truc particulier que vous avez aimé dans un jeu et tout le monde vous dit « Ah non, ça c'était vraiment la règle qui était abusée ». Un mécanisme spécial.
Là, c'est un coup de bonneteau qui se passe en direct.
Oulala, Olivier Safre nous rejoint.
On peut regarder un football tranquille.
Olivier Safre,
l'auteur de Rumble in the House, qui prend la place d'Eric.
C'est Rumble in the House.
Dis bonjour au micro.
Bonjour au micro. Voilà.
Enchanté.
Alors,
tu te baladais, t'as vu de la lumière.
Dans l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu.
Tu viens de sauver Philippe et Bruno d'une question.
On a une question pour toi.
C'est une question dure. Merci de respecter un peu les autres animateurs.
Relance là parce qu'on attend un nouvel auteur autour de la table.
Non, on posait la question, est-ce qu'il y a des règles, des mécanismes où tout le monde dit autour de toi c'est pourri, mais toi tu la trouves super bien et ce jeu tu le trouves super bien?
Bah Rumble.
Olivier Safre est l'auteur de Rumble in the House.
Mais c'est très bien. Moi j'ai jamais dit que c'était pourri.
Il y a plein de gens qui disent c'est bien.
Moi j'ai pas trouvé ça pourri.
Ton éditeur il trouve que c'est pourri?
Oui, mais il savait qu'il allait gagner des sous, donc
voilà.
Ah oui, parce qu'Eric est prêt à tout.
Et après on parle d'objectivité.
Oui, bravo, merci.
C'est du propre.
Il faut enchaîner, hein.
Ah, bon, voilà. Moi, sinon, j'ai une question. Ludinor, il y a des vrais gens, du vrai public. C'est bien, c'est pas bien.
Mais moi, c'est la première fois. Donc,
ça, c'est la première fois. En fait, ce festival n'a eu qu'une édition et demie, apparemment, parce que seul Philippe était là l'année dernière.
Non, Eric était là aussi.
Mais en plus, cette année, ça tombe avec Troll et Légende, à Mons, en Belgique. Donc, je devais aller à Troll, il y a eu des petits soucis. Donc, j'ai réussi à me partager entre ici aujourd'hui et demain, je vais à Troll. Oui.
Alors, j'ai une question, parce que j'ai lu La Voix du Nord, le journal local. Donc, il y a un petit encart sur Ludinor. Par contre, il y a quelque chose d'un peu plus gros sur le festival de JDR.
Oui, Troll et Légende, excuse-moi, c'est pas que le JDR.
Ouais.
C'est vraiment
un canon pareil.
Oui, ça pourrait. Mais la volonté, c'est de mélanger, de rassembler en un seul lieu tout ce qui tourne autour de la fantasy.
C'est
ça. Donc il y a du jeu de société, il y a du jeu de figurines, il y a des auteurs, il y a des illustrateurs.
Culture de l'imaginaire.
Oui.
Il y a du jeu de gros, le grandeur nature. Il y a des artisans qui vendent de l'hydromel, des choses comme ça, des vêtements.
Ça c'est bien. Ça change de la bière.
Donc des concerts le soir, il y a plein de choses, donc c'est pas comparable en fait, c'est deux choses différentes. Il y a une petite partie jeu qui est à peu près la même taille que ici. Donc,
Et alors t'es allé boire ici et t'es allé boire là-bas aussi.
Je vais boire là-bas demain.
D'accord.
Une fois que t'as épuisé ton quota de bière ici.
Oui, c'est ça. Non mais mon quota de bière ça va. Je peux encore en boire.
Est-ce que je balance un quiz maintenant?
Je pense que c'est l'heure du quiz et je vais laisser ma place à Eric pour que Eric ne se défile pas. Eric, voilà. Prends ma place.
Quand même.
Alors, on écoute.
Par contre, je ferai bien une pause pipi.
Il faut répondre et rapidement.
Après, avec plaisir, moi aussi, hein, parce que Rivière, ça va. Hein.
Alors, donc on a 5 candidats. Et j'ai 10 questions, ça tombe bien.
Alors,
on va faire un tour de table, hein, très simplement. C'est du QCM, donc pour chaque question, je propose 3 réponses. Culture ludique, Eric, c'est parti. Quelle ressource n'est pas présente dans le jeu Les Piliers de la Terre?
Mon Dieu.
La guimauve.
Le sable, l'or ou le métal?
L'or?
L'or, oui.
Ah, ouais, c'est bien vu. Ouais.
Bravo. Je prends les notes.
Ouais.
Hein. Eric, un point.
Philippe, on enchaîne. Compatibilité. Tu y as joué?
C'est pas un jeu.
Excuse-moi Mathieu, mais ce n'est pas vraiment un jeu.
Tout à fait, selon certains critères.
Vas-y.
Alors, compatibilité se joue avec des chiffres, des symboles de couleurs ou des images.
Des images,
c'est bien.
Elle était facile celle-là quand même.
Bah, si vous faites un perfect...
Non, c'est à moi de répondre.
Moi je pensais que ça joue avec les doigts. Hein.
Oui, c'est ça.
Dans Bonanza... Il est question de haricots.
Ouais, c'est ça.
De voilà. C'est très bien.
Ouais, c'est ça.
Plein d'assurance. Tibi, ouais. Dans Fresco.
Oui.
Que tu as joué de nombreuses fois.
Bien sûr.
Tout à fait. Les joueurs peuvent réaliser une action étonnante. Laquelle?
Aller au théâtre. Aller au théâtre pour se détendre.
Ça ne fait pas partie des réponses.
Il n'y a pas aller aux toilettes.
C'est vraiment original pour le coup.
Faire sur les toilettes.
C'est aller aux toilettes, faire la grâce matinée ou prier.
Faire la grâce matinée.
Ils peuvent faire la grâce matinée.
Je vais avoir la question à laquelle je ne sais pas.
Ben voilà. Attends, il y a un deuxième
point. Non. Le pire, c'est qu'on tombe sur la vallée des mammouths.
Fais les règles avancées.
Sors-lui les règles avancées.
Les règles avancées, c'est de passer à la question suivante. Lequel de ces jeux nécessite d'avoir un bon coup de crayon? Kezako, Art moderne ou Tadam?
Tadam.
Oui.
Tadam.
Tadam.
Pour l'instant, grand chelem. Hein.
Ok, c'est grand chelem. Alors, Eric reprend la main et du coup, c'est la question sur la vallée des mammouths. Combien de tours durent une saison? 2, 3 ou 4?
Oh, c'est difficile ça.
3? 3, ouais, c'est ça.
Bravo. Okay. Elle est pas dure.
On reprend. Philippe. Si je donne une clé en empruntant la terre ferme, je suis en train de jouer à Isla Dorada, Kauna ou Tikal 2.
Et tu prends quoi?
Si je dis je donne une clé en empruntant la terre ferme, je suis en train de jouer à Isla Dorada, à Kauna ou à Tikal 2.
Ah.
Alors là.
Et ça triche comme d'habitude.
Bien sûr.
Je joue à la 3, mais non, je vois pas.
Il y a une action particulière.
Parfois, alors, faut savoir que Mathieu Tikal parfois se plante dans ses questions.
C'est Tikal 2. Il y a un passage par la terre où on doit lâcher une clé.
On vérifiera.
Alors, on reprend. Olivier, dans le jeu Dune, Quelle est la couleur des Atreides?
Bleu.
Voilà, j'ai même pas besoin de donner les réponses. Monsieur est un connaisseur.
C'est un peu son jeu fétiche aussi. Hein.
C'est Dune, tu parles bien de Dune. Ouais, les Atreides.
Les Atreides.
Oui, mais ils sont verts.
Oui, mais c'est
ce ils sont verts aussi.
Ils sont verts.
Bleu, c'est les sangliers aussi.
Je confirme, c'est la
ce
bonne
réponse. Ce sont les Bene Gesserit.
C'est Bene Gesserit qui sont bleus.
Oui.
Bon.
Alors.
Faut pas répondre trop vite.
Et enfin, Tibi, c'est pour toi la dernière. Quel est le premier jeu français? Pardon ?
J'en avais 10.
J'en avais 10 ?
Oui.
T'en as sauté une pour Bruno, ouais, parce que c'était.
Qu'est-ce que
jeu.
Je n'ai pas.
Ah oui, il y en a une. Tu auras la 4 du coup. Tout est très cohérent.
On gère
alors
bien.
La 10 pour Tibi. Quel est le premier jeu français à avoir reçu le fameux Spiel des Jahres ?
Français, à part un auteur français.
Premier jeu français. Comprends ça comme tu veux, ce qui rend.
C'est un QCM, donc ça va.
Donc c'est Dixit, c'est Mare Nostrum ou c'est Ispahan ?
Franco-français Dixit.
C'est Dixit, ouais.
Si c'est là, tout le monde est français dans toute la chaîne. Donc.
Et enfin, donc on repasse à la 4 que j'avais complètement zappé. Lors d'une partie de Cyclades, Bruno, je peux construire une cité avec 1 des philosophes, 2 des ingénieurs, 3 des esclaves.
C'est une vachement bonne question. Hein. C'est une vachement bonne question.
C'est un jeu très réaliste, je t'aide.
On va dire des philosophes.
Oui, voilà. Ouais, c'est bien connu.
Et voilà.
Merci.
Et je pense qu'on va vous libérer parce que j'ai entendu des doléances.
Le devoir vous appelle, monsieur.
Un grand merci à vous.
Merci.
Le bar, surtout.
Merci beaucoup. Oui.
Merci à vous. Une prochaine.
Avec
bon
plaisir.
Festival, puisqu'il ne s'agit pas d'un salon.
Tout à fait.
À bientôt.
À très bientôt, merci. Et pour les auditeurs de la Radio des Jeux, on se retrouve très bientôt avec Yello qui vient nous rendre visite. Cette fois dans les locaux chez Beuss. Voilà, toujours SDF, la Radio des Jeux. Petit message, on cherche des locaux. Aidez-nous.
Merci beaucoup. Un message personnel de Sébastien de Vivinor qui cherche un hébergement pour Paris Ludique. Si vous voulez l'héberger, il m'a chargé de. Vous pouvez écrire à la radio des jeux à gmail.com et je transmets.
Je pense que celui-là n'était pas consigné.
Ok.
Merci à vous, les gars.
Merci.